Bienvenue dans le débat. Saviez-vous que pour près d'un tiers des seniors, l'endroit le plus dangereux de leur maison, c'est pas la salle de bain, ni les escaliers, mais bel et bien leur propre lit.
Ouais, c'est une statistique qui fait un peu froid dans le dos, mais bon, c'est la réalité clinique du maintien à domicile. Le simple fait de se lever ou même de se retourner sous les draps, ça devient une zone de vulnérabilité extrême.
Absolument. Et c'est exactement ce qui nous réunit aujourd'hui. On va se concentrer sur un objet qu'on retrouve de plus en plus dans les chambres médicalisées à domicile, la barre de lit. Mais attention, on ne va pas juste l'analyser comme un simple bout de métal, on va se plonger dans le quotidien de ceux qui manipulent cet outil tous les jours, c'est-à-dire les auxiliaires de vie.
Parce que pour ces professionnels, ce dispositif est tout sauf neutre. Ça modifie complètement l'espace de travail et même, je dirais, la relation avec la personne accompagnée.
Tout à fait. Donc la question centrale, celle qui divise souvent les formateurs et les soignants, c'est celle-ci. Est-ce que la barre de lit doit être perçue par l'auxiliaire de vie comme un instrument d'émancipation, un vrai moteur d'autonomie pour le patient, ou alors est-ce qu'on doit la voir d'abord comme un dispositif de sécurité très strict, une barrière qui prévient les chutes, mais au prix d'une grosse restriction physique et psychologique?
Un vrai dilemme, quoi.
Exactement.
Et de mon côté, je suis vraiment convaincu que quand elle est bien maîtrisée, cette barre, c'est le levier principal de l'autonomie du patient. Et en même temps, c'est l'outil qui va littéralement sauver le dos de l'auxiliaire de vie.
Plus prudent. Pour moi, cet outil, ça incarne ce que j'appellerais le paradoxe de la sécurité. Le mécanisme exact qui empêche un patient de tomber, c'est souvent le même qui le prive de sa liberté de mouvement. C'est fondamentalement un outil de gestion des risques. Et ça amène une charge mentale énorme pour l'auxiliaire.
Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective un peu différente, basée sur la biomécanique. Oublions deux secondes l'image de la grosse barrière d'hôpital intégral. Prenons une barre d'appui de lit moderne qui est bien installée. En physique, on appelle ça un point d'appui de levier.
D'accord, je vois où vous voulez en venir.
La gravité comme un poids mort et que l'auxiliaire doit tracter toutes ses forces, la barre change complètement l'équation. Le patient saisit la barre, il utilise le reste de sa force musculaire et il participe à la manœuvre.
Ouais, enfin, là vous décrivez le scénario idéal, hein, le transfert parfait où le patient est hyper collaboratif.
Mais c'est justement tout le but de la formation de l'auxiliaire de vie. Il ne s'agit pas juste de visser un truc sous le matelas. Il s'agit de passer d'une logique d'assistance passive où le soignant s'épuise à une vraie collaboration motrice. Quand l'auxiliaire dit « prenez appui sur la barre, on va se tourner ensemble », la dignité du patient est restaurée et les lombaires du professionnel sont protégés.
Je conteste pas les lois de la physique, hein, mais il faut quand même replacer cette physique dans la vraie vie, dans son contexte humain. Vous parlez de dignité restaurée, mais parlons deux minutes de l'impact psychologique de cet équipement.
Allez-y, je vous écoute.
Imaginez un patient, disons, avec un début d'Alzheimer, ou juste une personne âgée un peu désorientée, qui se réveille à 3 heures du matin. Il fait sombre, elle veut aller aux toilettes. Elle tend la main pour sortir du lit, et paf, elle touche du métal froid. C'est plus son lit conjugal, là. Ça devient un parc à bébé. C'est une cage, quoi.
Je suis d'accord, c'est une réaction très humaine. Mais n'est-ce pas là que le rôle de l'auxiliaire prend tout son sens ? C'est à lui de désamorcer cette angoisse, en fait.
Je suis désolé, mais je n'y crois pas vraiment. La charge émotionnelle est colossale. C'est l'auxiliaire de vie qui, à 8 heures du matin, arrive et va devoir absorber toute la frustration, l'angoisse et parfois l'agressivité d'un patient qui a passé la nuit à se sentir emprisonné. Le mur dont se plaignent les patients, c'est pas juste une métaphore. C'est un rappel quotidien de leur déclin.
C'est vrai. C'est dur.
Et donc, demander à l'intervenant à domicile de transformer par magie cette angoisse profonde en une petite séance de biomécanique joyeuse, c'est sous-estimer la violence de la perte d'autonomie.
Je veux bien, mais je dirais même plus, cette angoisse du patient, elle a une conséquence physique directe pour l'auxiliaire, non ? Si le patient se crispe psychologiquement contre l'outil, son corps se raidit.
Mais complètement, un corps raidi par la peur, c'est un corps qui participe pas. Et là, votre magnifique principe du levier, il s'effondre. C'est le dos du soignant qui encaisse toute la charge.
Je suis d'accord sur le constat, mais alors pas du tout sur la conclusion. Si le patient se crispe, c'est très souvent parce que l'outil était mal présenté. On lui a imposé ça comme une contrainte médicale. Prenons des exemples concrets d'équipements que les auxiliaires doivent maîtriser. Vous connaissez la barre de lit en forme de M ?
Oui, bien sûr, le modèle M-Ray.
Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, cette barre, elle ressemble un peu au tracé en zigzag d'un électrocardiogramme, sur le côté du matelas.
C'est pas hyper esthétique, mais c'est purement ergonomique. La partie basse permet au patient de s'agripper couché pour basculer, le niveau du milieu l'aide à s'asseoir, et le sommet lui offre une prise pour se lever.
C'est très bien pensé, je le reconnais.
Et quand l'auxiliaire explique ça au patient, qui lui montre comment faire, bah le regard change. C'est plus un mur pour l'enfermer la nuit, ça devient une échelle pour se lever le matin. L'éducation fait toute la différence.
C'est un argument convaincant, l'éducation est vitale. Mais avez-vous considéré l'espace physique? Mettez-vous à la place de l'auxiliaire pour tout ce qui n'est pas le lever. Mardi matin, 7h, vous arrivez dans une petite chambre de 9 mètres carrés. Le lit est calé contre un mur. Et là, au beau milieu du seul passage qu'il vous reste, il y a cette fameuse barre en métal.
À l'encombrement spatial. Oui, c'est un défi quotidien.
C'est plus qu'un défi, c'est souvent un cauchemar. Hein. Pensez à un soin très concret, comme une toilette au lit ou le change d'une protection. L'auxiliaire a besoin d'être au plus près du corps pour pas flinguer ses propres lombaires. Mais avec une barre au milieu, l'équipement s'interpose. La barre bute contre les hanches du soignant.
Ce qui le force à s'éloigner du bord du lit, c'est sûr.
Exactement. Il doit se pencher par-dessus, étirer ses bras, adopter des postures de torsion vertébrale catastrophiques. Donc le paradoxe frappe encore, l'objet qui est censé protéger le soignant pendant le transfert devient une barrière qui détruit sa posture pendant les soins d'hygiène.
C'est une excellente illustration de la réalité du terrain. Mais franchement, ce que vous décrivez là, c'est pas la faute de la barre en soi. Ce sont les symptômes d'une mauvaise évaluation de l'environnement.
Une mauvaise évaluation, c'est vite dit.
Mais si. Et c'est là que la dimension de formation devient, mais cruciale. Si l'auxiliaire doit faire une toilette au lit tous les jours, on ne met pas une barre fixe gigantesque, on préconise une canne de lit escamotable qu'on peut rabattre, ou on coordonne avec un ergothérapeute. L'auxiliaire n'est pas condamné à subir un matériel inadapté.
Sauf que dans la vraie vie, l'auxiliaire arrive souvent chez un nouveau bénéficiaire où le matériel est déjà là. La famille a acheté ça sur Internet sans aucun conseil. Et l'intervenant doit faire avec les moyens du bord.
Eh bien, c'est précisément pour ça qu'on doit former les auxiliaires de vie à être des experts techniques. Ils doivent devenir les premiers évaluateurs de cette sécurité à domicile. Et puisqu'on parle de formation, il y a des règles d'or, des métriques que tout intervenant devrait connaître par cœur.
Les fameuses normes.
Oui, les normes. Vous parlez des familles qui achètent n'importe quoi. Savez-vous quelle est l'erreur la plus mortelle lors de l'installation d'une barre glissée sous un matelas colis ?
Le mauvais positionnement par rapport à la tête de lit, je m'enchaîne ?
Exactement. On parle souvent de la règle des 30 cm. La barre doit être placée à au moins 30 cm de la tête du lit. Pour un œil non averti, ça ressemble à un caprice bureaucratique. Mais il y a une raison glaçante derrière. L'espace entre 10 et 30 cm, c'est ce qu'on appelle une zone de piégeage.
C'est-à-dire que le corps peut passer, mais pas la tête ?
C'est ça. Si l'espace est de 15 cm, un senior un peu confus qui glisse vers le haut du lit pendant la nuit, bah, son buste passe à travers, mais son cou se bloque. Le crâne passe pas. On parle d'un risque d'asphyxie pure et simple. Quand vous expliquez cette physique implacable à un auxiliaire en formation, je vous garantis qu'il ne regarde plus jamais cette barre de la même façon. Il comprend le pourquoi. C'est une ligne de vie.
Je minimise absolument pas l'importance de ces chiffres. Attention, ces métriques sauvent des vies. Mais regardez un peu ce qu'on est en train de faire. On ajoute une casquette d'ingénieur de la sécurité sur la tête d'un auxiliaire de vie qui est déjà complètement submergé.
Je dirais pas submergé, je dirais polyvalent.
Mais si, le professionnel doit faire la toilette, préparer le repas, gérer la stimulation cognitive, l'hydratation. Et maintenant, il doit vérifier avec un mètre ruban mental si la barre a pas glissé de 5 cm pendant la nuit.
Mais c'est pas un mètre ruban physique, c'est un coup d'œil clinique. Ça prend 3 secondes une fois que l'œil est exercé. Et tenez, prenons une autre métrique essentielle pour ceux qui nous écoutent. La règle des 15 cm. La barre de préhension doit dépasser d'au moins 15 cm au-dessus du matelas. Mais attention, pas du matelas à vide, du matelas compressé sous le poids du patient.
Ah oui, parce que les matelas en mousse à mémoire de forme, ça s'affaisse énormément dès qu'on s'assoit au bord.
Voilà. Si l'auxiliaire ne comprend pas ce mécanisme de compression dynamique, qu'est-ce qui se passe ? Il arrive, le lit est fait, la barre dépasse joliment de 10 cm, ça a l'air bien. Sauf que, quand le senior de 80 kg s'assoit, le matelas s'écrase.
Et la barre disparaît presque.
Exactement. La barre dépasse plus du tout, le patient essaye de s'appuyer, sa main glisse au-dessus de la barre et bim, c'est la chute vers l'avant. Comprendre cette notion de compression dynamique, c'est ça qui transforme un bon intervenant en un véritable expert de la sécurité à domicile.
Ouais, et n'oublions pas les sangles aussi. Parce que ces barres, elles ne sont pas magiquement ancrées dans le sol. Il y a une partie plate sous le matelas et souvent, ça doit être attaché au sommier par des sangles réglables. L'auxiliaire doit vérifier que ses sangles sont toujours tendues à bloc. Si ça se détend, la barre s'écarte du matelas et hop, nouvelle zone de piégeage sur le côté.
Vous voyez, c'est une observation très juste. Et ça prouve bien que le savoir technique, c'est l'arme numéro un.
Je suis d'accord sur la théorie, mais je maintiens mon inquiétude sur la pratique. Ces règles techniques, les 30 cm d'espacement, les 15 cm de compression, les 40 cm recommandés pour la prise en main, c'est une lourde responsabilité légale et morale.
C'est le cœur de leur métier de protéger les personnes vulnérables.
Oui, mais si l'auxiliaire constate que le sommier de la famille n'est pas compatible avec les sangles, il fait quoi là? Il doit lancer l'alerte. Il devient le porteur de mauvaises nouvelles auprès d'une famille qui pensait avoir bien fait. L'outil exige une vigilance technique permanente qui, par moments, le détourne de sa mission première, le relationnel.
Ah non, là je ne suis pas d'accord. Sécuriser l'environnement physique, c'est l'essence même du soin. C'est pas une distraction du relationnel, c'est ce qui le rend possible. Comment voulez-vous avoir une interaction apaisée si vous avez constamment peur que votre patient bascule par terre ?
En parlant de basculer, il faut vraiment qu'on aborde le danger le plus effrayant et le plus contre-intuitif des barrières de lit. C'est le revers absolu de votre vision d'émancipation.
Vous parlez de l'enjambement ?
Oui, le fameux syndrome de l'enjambement. Vous parlez du patient qui se lève calmement en cédant de sa barre. Moi, je vous parle du patient désorienté, qui comprend pas pourquoi il y a un obstacle et qui décide de l'escalader.
C'est un vrai risque, c'est indéniable.
Et la physique, là-dedans, elle pardonne pas. Sans barrière, si un patient confus roule et tombe du lit, il fait une chute d'environ 50 cm. C'est grave, on peut avoir une fracture du col du fémur. Mais si on installe une longue barrière et que le patient l'enjambe dans le noir, son centre de gravité bascule depuis le sommet de l'obstacle. La chute se fait de près d'un mètre de haut, la tête la première. La gravité des blessures est multipliée de façon exponentielle.
C'est un point névralgique et c'est précisément la raison pour laquelle les bonnes pratiques d'aujourd'hui recommandent des demi-barrières ou des barres de transfert courtes plutôt que des ridelles complètes comme à l'hôpital.
Pour laisser une issue.
Exactement. L'objectif, c'est pas d'enfermer le patient de la tête aux pieds, c'est de lui offrir un repère tactile et un point d'appui. Une barre courte, bien positionnée au tiers supérieur du lit, ça laisse le bas du lit dégagé. Le patient sait qu'il peut glisser ses jambes vers le bas pour sortir. Il n'a pas besoin de faire de l'escalade.
Ce qui nous ramène encore une fois à l'importance de l'évaluation continue. La barre de lit, c'est pas une solution miracle qu'on installe et qu'on oublie. C'est presque une prescription médicale qui doit évoluer.
Tout à fait.
Un dispositif parfait en janvier peut devenir mortel en septembre si l'état cognitif du patient s'est dégradé et qu'il commence à vouloir enjamber les obstacles. L'auxiliaire de vie doit avoir le discernement et l'audace de dire à son équipe coordinatrice « Attention, ce dispositif n'est plus adapté, on l'enlève et on passe à un lit ultra bas avec un tapis au sol. »
Mais c'est exactement ce qui fait l'excellence de ce métier. L'auxiliaire, c'est pas un simple exécutant, c'est la vigie du quotidien. S'il remarque que le patient a perdu la force musculaire pour se tracter ou s'il note des épisodes de confusion nocturne, c'est lui qui déclenche la réévaluation. Ce n'est donc pas l'outil en soi qui est bon ou mauvais, c'est la qualité de l'évaluation professionnelle autour de l'outil.
Et cette évaluation, je le répète, c'est une charge mentale énorme. On demande à l'intervenant de naviguer entre deux peurs. La peur que le patient tombe sans barre et la peur qu'il se blesse plus gravement à cause de la barre. Sans parler des contorsions pour faire la toilette. C'est un exercice d'équilibriste permanent.
C'est tout le défi. Mais penchons-nous à nouveau sur la santé du travailleur. L'Institut de recherche en santé et sécurité au travail est formel là-dessus. La manutention manuelle des patients, c'est la cause numéro 1 des troubles musculo-squelettiques chez les aides à domicile. Des carrières entières sont brisées à cause de transferts faits à bout de bras.
C'est un fait.
Alors oui, la barre demande d'évaluer le patient, de vérifier la fameuse zone de 30 cm, de surveiller l'encombrement. Mais quand elle est bien paramétrée, elle permet à l'auxiliaire de guider le mouvement par la voix avec une petite impulsion au lieu de porter des dizaines de kilos. Le gain ergonomique pour le soignant, il est inestimable.
Sous réserve que l'environnement le permette, bien sûr. Si la barre vous force à nettoyer le patient en pleine torsion lombaire, le bénéfice du transfert est annulé par le dommage du soin d'hygiène. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des compromis qu'il faut gérer au cas par cas.
Je pense que nous avons fait le tour de cette mécanique complexe. Il est temps de synthétiser un peu nos positions. De mon point de vue, avec le recul sur la dynamique des transferts, je reste intimement convaincue que la barre de lit est une vraie chance pour le maintien à domicile, à condition expresse qu'elle soit accompagnée de formation pour les auxiliaires.
La fameuse formation.
Oui, parce que lorsqu'un auxiliaire comprend la biomécanique, qu'il maîtrise les dimensions critiques, les 30, 15 et 40 cm, et qu'il sait communiquer avec le patient, bah la barre devient un moteur d'autonomie. Elle préserve les capacités du patient et surtout, elle protège la santé physique du professionnel.
J'entends parfaitement cet argument de l'autonomie préservée, mais je maintiens ma ligne de prudence. Le paradoxe de la sécurité, il sera toujours là. Cet équipement, ça reste une barrière physique. Son installation dans l'espace intime a des conséquences en cascade. L'entrave pour les soins d'hygiène, le risque dramatique d'enjambement et le lourd fardeau du contrôle technique constant pour le soignant.
C'est exigeant, c'est certain.
C'est une technologie qui peut très vite se retourner contre ses utilisateurs si l'auxiliaire de vie n'exerce pas une vigilance critique tous les jours. C'est pas juste un outil d'aide, c'est un dispositif de gestion des risques à très haut niveau d'exigence.
Nos désaccords soulignent finalement une vérité commune, je crois. C'est qu'une aide technique ne se suffit jamais à elle-même. La ferraille, aussi ergonomique soit-elle, ça remplace pas l'intelligence de situation.
Exactement. Qu'on voit cet objet comme une échelle vers l'autonomie ou comme une protection pleine de contraintes, la clé de voûte, ça reste l'humain. C'est le professionnalisme de l'auxiliaire de vie, sa capacité d'adaptation et son empathie qui vont déterminer si l'outil remplit son rôle ou s'il devient un danger.
C'est vraiment ce qui rend ce métier si exigeant et si indispensable. Comprendre les mécanismes de l'espace de soins, c'est la première étape pour l'améliorer. On vous encourage, surtout si vous êtes intervenant à domicile ou formateur, à regarder la chambre à coucher avec ce nouvel œil clinique, à vérifier ses métriques et à toujours chercher le point d'équilibre entre mobilité et sécurité.
Parce qu'au final, chaque domicile est un monde à part entière et chaque patient nécessite une approche sur mesure.
Tout à fait. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. Continuez à questionner vos certitudes et à très bientôt dans Le Débat.